On va aller dans un petit mot de prière, puis on va commencer. C'est bon? Vous aviez des notes que vous pouviez prendre à l'arrière ou vous les avez reçues déjà par courriel. Puis on va juste prier ensemble. Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre ensemble dans ta parole. Seigneur, ce matin, on adresse un sujet important qui est tout autour de l'Évangile puis du salut en Jésus-Christ et quelque chose qui doit être tellement limpide pour nous personnellement, pour le salut de notre âme puis pour la mission, Seigneur. Alors, je te prie de bénir ce temps ensemble dans ce cours. Viens, Seigneur, nous faire grandir dans notre vision pour la mission, dans notre prière pour la mission, puis dans le fardeau sur nos cœurs, notre zèle pour la mission locale autour de nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Bien, bonjour tout le monde. Alors, on est dans le cours « Que les nations se réjouissent ». Et puis, on est à la leçon 7. Et ce matin, juste vous mentionner, avant de vous présenter les missionnaires pour cette semaine, tout à l'heure, on va l'annoncer. J'avais déjà parlé de ça un petit peu. On va l'annoncer tout à l'heure pendant le service. C'est notre livre du mois. On essaie de faire la promotion de livres régulièrement. Et puis, donc, ce livre-là s'appelle « Pray for the World ». Puis, on a eu à cœur de l'offrir à l'Église, de faire la promotion de ce livre-là en préparant le cours « Que les nations se réjouissent ». Il est juste en anglais. Mais c'est un livre très, très, très pratique. Dans le fond, c'est un guide de prière pour prier pour toutes les nations du monde pour la mission. Et donc, vous avez par continent, par pays, les informations sur l'état actuel, la progression de l'Évangile dans tel pays, pour telle nation. Est-ce que la Bible a été traduite dans leur langue? Est-ce qu'il y a des missionnaires là-bas? Est-ce qu'on est capable d'identifier un pourcentage de chrétiens là-bas? Puis au début, vous avez vraiment une introduction avec l'état actuel dans le monde. Donc, l'édition, c'est 2015. Alors, c'est sûr qu'il y a déjà des petits changements, mais c'est un ministère qui se tient à jour régulièrement. D'accord? Et en achetant le livre, vous pouvez aussi aller, vous allez découvrir un peu leur site web parce que c'est possible de travailler avec une application. Donc, moi, tous les jours, je travaille avec une application sur mon téléphone, puis je reçois un rappel régulièrement à tous les jours où on présente justement un peuple non atteint avec l'Évangile. L'application se concentre sur les peuples non atteints dans le monde et le livre lui nous aide à prier pour le monde au complet avec tous les pays de la terre. C'est vraiment, vraiment bien. Si vous n'êtes pas bilingue, mais que vous vous débrouillez, là, vous baragouinez l'anglais, là, vous allez être capable de fonctionner avec le livre. C'est comme une page par pays. Fait que tu y vas tranquillement puis tu pries cette journée-là. D'accord? Fait que je veux vraiment vous encourager à considérer de vous le procurer. C'est 15 $. Le livre. Alors, ce matin, on parle des Grettes. On parle de Jean-Pierre et Abby Grette. C'est des missionnaires qu'on soutient depuis très longtemps. Vous avez reçu l'information sur eux. Juste vous les présenter un petit peu. Et c'est des missionnaires qu'on va terminer de supporter financièrement. Pas parce qu'ils vont arrêter de servir le Seigneur, mais parce qu'officiellement, ils arrivent à la retraite. Et donc, ils vont être supportés ou autonomes financièrement. Donc, Jean-Pierre vient d'Europe, vient d'Alsace, est né en Alsace. Et puis, Abigail, de son vrai nom, bien, c'est Abigail Beau. C'est la fille, c'est une des enfants du couple Beau qui a implanté l'Église ici, de M. et Mme Beau. Donc, c'est vraiment un privilège pour nous de les supporter financièrement dans la mission. Et donc, Jean-Pierre est arrivé au Québec. Et puis, il s'est installé dans la région d'Alma. Dans les années 75, ils se sont mariés. Dans les années 80, il a été convaincu d'un appel au ministère. Il avait commencé ses études avec Sambec, notre séminaire. Il a été convaincu d'un appel au ministère. Et donc, il a eu la charge pastorale de l'Église d'Alma, ici au Québec, pendant une dizaine d'années. Après une dizaine d'années, ils ont eu sur leur cœur la conviction qu'ils étaient appelés à les servir en Europe francophone. Dans le fond, retourner un peu dans le petit coin de pays à Jean-Pierre. Mais en fait, ils sont allés en Belgique, ils sont allés servir en Belgique. Et ils ont servi là au moins peut-être 18 ans environ en Belgique, avant à l'implantation d'églises. Donc, ils ont travaillé à l'implantation de plus d'une église là-bas, la formation de leaders, un peu comme lorsque je parlais de McTerwall, les dons vraiment de Jean-Pierre sont dans l'enseignement. C'est vraiment là que sont ses dons les plus forts. Ils ont encore l'évangélisation, mais c'est vraiment l'enseignement. Donc, que ce soit en Belgique ou que ce soit en France, Dieu s'est servi beaucoup de Jean-Pierre pour former des pasteurs, former des ouvriers. Et entre autres, ils ont intégré ou adapté l'approche qu'on a avec notre séminaire ici, Sambec. Notre séminaire a une approche particulière par rapport aux écoles classiques, si on peut dire. C'est que normalement, qu'est-ce que tu fais lorsque tu veux aller te former dans un domaine quelconque, n'importe quel domaine? En général, tu vas partir de chez vous, puis tu vas aller à l'université. Puis là, tu vas étudier dans des salles de classe, assis devant des tableaux avec un professeur pendant 3 ans. De plus en plus, il y a des approches où il va y avoir des stages pratiques. Bien, l'approche de Sembeck, c'est comme l'inverse. Tu commences avec ton stage pratique, il va continuer pendant toute ta formation, puis tu vas libérer du temps pour aller faire des cours. Et la raison pour laquelle notre séminaire fonctionne comme ça ici au Québec, c'est qu'il est né pendant le réveil spirituel des années 70-80. J'ai déjà mentionné ces choses-là, là, ceux qui sont familiers avec l'histoire du Québec. Donc, littéralement, les gars se convertissaient, puis 2 ans après, ils étaient pasteurs. C'est juste parce qu'ils connaissaient un petit peu plus l'ordre des livres dans la Bible que le reste de l'Église. J'exagère, mais à peine. D'accord? Si vous parlez avec les gars qui sont rentrés dans le ministère à cette époque-là. Puis en fait, c'est la réalité missionnaire dans le monde. D'accord? J'ai un de mes amis, Doug Virgin, qui est déjà venu prêcher ici, est actuellement au Congo. Pourquoi est-ce qu'il est au Congo? Pour aller donner de la formation aux pasteurs. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont pasteurs, puis ils n'ont aucun diplôme. Ils connaissent plus la Bible que les gens dont ils s'occupent, des fois beaucoup plus, mais ils ont peu de formation quand même. C'est la réalité missionnaire partout dans le monde. D'accord? Et donc, ça, c'est comme ça que notre séminaire fonctionne ici. Jean-Pierre a importé ça pour la Belgique. Puis en fait, régulièrement, on a des gens qui sont intéressés à cette approche-là parce qu'elle rencontre plus la réalité du champ missionnaire. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous vous rappellerez, l'an dernier, on a eu un petit groupe de pasteurs russes qui sont venus ici, qui ont visité, étaient assis à l'arrière, puis j'ai pris le temps de manger avec eux. Bien là, François Turcotte doit aller en Russie cet automne pour aller donner une formation à ces pasteurs-là qui sont en train justement d'essayer d'adopter le modèle de Sembeck là-bas parce que la Russie, c'est énorme géographiquement, c'est relativement pauvre. Et donc, les pasteurs qui vont être envoyés pour être formés comme on fait avec Alexandre actuellement à Louisville, nous autres, admettons, c'est exceptionnel. La majorité sont comme moi. Tu commences tes études à Sembeck, tu es impliqué dans l'Église, il se passe quelque chose dans l'Église, le pasteur s'en va, tu t'occupes de l'Église pendant que tu continues tes études. Puis finalement, tu quittes jamais l'Église. Fait que c'est souvent ça. C'est ça mon histoire à moi. Donc, Jean-Pierre a été utilisé pour ça énormément. Et puis après, je crois, environ 18 ans en Belgique, ils sont allés continuer ce travail-là en France, en 2002, je crois. Et ils viennent de revenir au Québec il y a quelques mois. Et pour se préparer, dans le fond, à la retraite. Mais ils sont encore très, très impliqués. Alors, maintenant, ils sont impliqués dans la région de Granby. Juste mentionner une petite chose. Abigail, lorsqu'elle était là-bas, dans les dernières années, son ministère principal, c'était de s'occuper de la maison de France pour Christ, où on reçoit les missionnaires. Et maintenant, c'est une sœur de l'Église ici qui a pris la relève d'Abigail. D'accord? Sylvie Gauthier, la sœur de Camille Gauthier Rondeau. Donc, c'est elle qui est là-bas. On la soutient financièrement parce qu'elle a pris la relève d'Abigail pour s'occuper de la maison qui reçoit les missionnaires lorsqu'ils viennent pour des conférences de France pour Christ à travers toute la France. Petite parenthèse. Donc maintenant, Abigail et Jean-Pierre sont revenus au Québec, sont dans la région de Granby, sont impliqués avec l'Église Le Flambeau de notre association qui a une énorme vision de formation d'ouvriers. Vous avez les détails dans le document. Ils visent former énormément d'ouvriers. Et donc, Jean-Pierre et Abigail sont tous les deux impliqués à ce niveau-là. Jean-Pierre forme des hommes, il forme principalement actuellement des anciens, donc des hommes qui ne sont pas nécessairement appelés à être à temps plein rémunérés par une Église, mais en gardant un travail séculier, vont servir dans l'Église comme anciens, est en train d'en former pour appuyer les implantations d'Église dans la région de Granby. Et Abigail est en train de superviser la formation Priscille, qu'on a avec Sembeck encore, qui vise à développer des femmes pour devenir des femmes de Dieu, des femmes qui sont vraiment des femmes d'influence dans l'Église et puis pour l'œuvre de Dieu. Fait qu'ils ont encore un très, très beau ministère. Et si je ne m'abuse, là, pour nous, au niveau du soutien financier, ça devrait être notre dernière année, puisque après ça, ils vont être plus autonomes. Mais ça a été vraiment un grand, grand privilège de les supporter. Alors, vous pouvez prier pour eux. Ils demeurent de nos missionnaires, puis c'est quand même un privilège pour nous là, d'avoir, dans le fond, la fille de notre fond, de M. et Mme Beau qui est allée servir là-bas, puis maintenant Sylvie qui est en train de prendre la relève. C'est vraiment un beau privilège. Voilà pour les Grettes. On va tourner ensemble dans notre leçon 7. On adresse une question importante ce matin. Là, on s'en va un petit peu plus dans le contenu de la mission. D'accord? Avant, on était dans le pourquoi, on était dans la prière, tout ça, dans la souffrance que peut impliquer la mission. Maintenant, quel est le contenu, quel est le matériel qui va être présenté lorsqu'on s'en va en mission. Je vous rappelle la citation que je mentionne à chaque cours sur la page couverture de la leçon. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. En ce sens que l'adoration n'existe pas dans le cœur de millions et de millions et de millions de personnes. Puis tout ce qu'on veut faire, c'est les conduire à adorer Dieu avec nous. C'est ça qu'on veut faire. Et donc, une fois que le Seigneur va être revenu, bien, Dieu va juger les hommes. Ceux qui auront décidé de devenir des adorateurs de Dieu vont célébrer Dieu pour l'éternité. Et les autres vont être damnés. C'est de ça qu'on parle ce matin. Et donc, il n'y aura plus de mission. La mission va être complétée. Notre mission, ça va être tout simplement l'adoration. D'accord? Alors, chapitre 4 dans le livre. Moi, je vous encourage toujours à lire le livre, mais je sais que des fois, c'est peut-être un petit peu lourd à lire. Mais je vous dirais, si vous lisez les deux tiers de ce chapitre-là, ça va vous permettre de passer en revue. Si ce matin, à la fin du cours, une des trois questions qu'on va adresser, vous n'êtes pas convaincu que ce qu'on présente est biblique, j'ai presque le goût de vous dire qu'il en va de votre salut que ce soit réglé dans votre esprit. D'accord? On est vraiment dans les questions essentielles sur l'Évangile. Alors, si c'est ambigu pour vous, si vous dites « je ne suis pas convaincu que c'est ça que la Bible enseigne », je veux vraiment vous encourager à prendre le temps à ce moment-là d'aller lire le chapitre attentivement, d'aller étudier les références bibliques, lire les passages bibliques comme il faut. Je vais vous lire beaucoup de passages bibliques ce matin. Mais peut-être qu'il y a une question, vous allez dire « aïe, je n'avais jamais vu ça comme ça ». Peut-être que ça va juste ouvrir une lumière dans votre esprit ce matin. Mais à ce moment-là, prenez le temps d'aller l'étudier. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Le titre de ce chapitre-là, « Retrouver consciemment le Christ au cœur de toute foi qui sauve ». Des fois, les titres, je ne les trouve pas très clairs. Hein? Mais vous allez voir que la question, ça va devenir plus clair. « Retrouver consciemment le Christ au cœur de toute foi qui sauve ». Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, okay, lorsqu'on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a quelque chose par rapport à la mission qui change presque au complet, fondamentalement. Si vous pensez à la mission dans l'Ancien Testament, si vous êtes familier, là, je vous regarde, vous connaissez tous au moins un peu votre Bible. Quand on est dans l'Ancien Testament, la mission, c'est quoi? Dieu choisit un peuple, ce peuple-là s'installe, ce peuple-là doit vivre selon les valeurs de Dieu, et ça va être à la gloire de Dieu. C'est un pays, c'est un territoire, ça s'arrête là. L'idée qu'il serait envoyé vers toutes les nations de la terre n'est même pas abordée. Oui, il devrait avoir à cœur les nations de la terre, mais c'est plutôt les nations de la terre qui vont venir vers eux, qui vont voir la gloire de Dieu puis qui vont se convertir. Il y en a plusieurs qui le font, en effet. Maintenant, ça veut dire quoi être en mission? C'est tout simplement adorer Dieu, servir Dieu, aller au temple, vivre ces valeurs-là. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, il y a deux choses qui changent fondamentalement. Premièrement, le fait qu'on est envoyé. C'est super clair. Jésus ne peut pas mettre ça plus clair. Il dit, vous êtes des pèlerins, oubliez le temple, oubliez de vous installer, oubliez de vous mettre confortable sur la terre, voyagez léger. On est en mission. Ça, c'est super clair avec Jésus. Puis quand ce n'est pas clair pour l'Église, il permet des persécutions, puis l'Église est dispersée. Fait que ça devient clair pour l'Église, ils n'ont comme pas le choix. Tu sais. Vous installez pas sur la terre. Ça, c'est une chose qui change. Mais l'autre chose qui change, qui est beaucoup plus fondamentale encore, c'est le fait qu'on a un message annoncé. Ce message-là, c'est une personne, et c'est de croire dans cette personne-là qui va faire que tu es sauvé. Donc, ce n'est pas simplement comme devenir juif puis adorer Yahvé. C'est croire dans un nom, Jésus-Christ. Et donc, quand j'arrive dans le Nouveau Testament, quand je passe le cap et je rentre dans le Nouveau Testament, la mission devient prêcher une personne, Jésus-Christ. Il y a quelque chose de profondément, radicalement différent qui se produit. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on annonce une personne. Parce que le moyen de salut devient super clair. C'est l'œuvre d'une seule personne dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, la question qui est posée, d'accord? Je vais juste vous lire le Romains 1:5, juste avant la question posée. Le Christ est désormais le centre de la mission de l'Église. L'objectif de la mission est en effet de conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Donc, c'est comme si vous avez tout l'Ancien Testament, Puis c'est Yahvé qui est au centre, c'est l'Éternel qui est au centre, c'est lui qu'on va adorer. Jésus, c'est Yahvé, c'est Dieu le Fils. Mais quand j'arrive dans le Nouveau Testament, Dieu prend son Fils, une personne de la Trinité, puis il le met au cœur de la mission. Puis il dit, suivez-le, écoutez-le, croyez en lui. C'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Honorez ses paroles. C'est lui votre espoir, c'est lui votre salut. D'accord? Alors, la question qui est posée. Voici donc la question fondamentale que nous examinerons dans cette leçon. Est-ce que la place centrale qu'occupe Jésus-Christ dans la mission fait de lui le seul chemin de salut? Je comprends que c'est une question un peu niaiseuse, peut-être, là, a priori, mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas, d'accord? Je la répète. Est-ce que la place centrale qu'occupe Jésus-Christ dans la mission fait de lui le seul chemin pour le salut? Puis ça peut avoir de l'air superflu, d'accord, comme question, sauf que dans les 40-50 dernières années, de plus en plus de gens qui se réclament de la foi chrétienne répondent à ça non. Puis vous allez voir, il y a trois autres questions qui sortent de celle-là, puis c'est avec les trois questions qu'on va répondre à ça, d'accord? La première question, c'est existe-t-il un risque de subir la colère de Dieu en ayant conscience d'être soumis à un châtiment éternel? En d'autres mots, est-ce que l'enfer, où les gens vont souffrir consciemment pour l'éternité, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est clair? Ou est-ce que, après 2,000-3,000 ans, Dieu va comme faire grâce à tout le monde, ce qu'on appelle l'universalisme, en bout du compte, tout le monde, au bout du compte, tout le monde va être sauvé? Ou bien encore, est-ce que l'âme des damnés serait tout simplement détruite? C'est ce qu'on appelle l'annihilation, d'accord? Donc, il y a des pasteurs, des théologiens évangéliques, il y a aussi des sectes chrétiennes, comme par exemple les Témoins de Jéhovah, d'accord, qui présentent ça comme ça. L'âme des damnés va être annihilée, elle va être détruite, et donc il n'y aura pas de souffrance éternelle. Donc, la première question, existe-t-il un risque de subir la colère de Dieu en ayant conscience d'être soumis à un châtiment éternel? Deuxième question, l'œuvre de Christ est-elle nécessaire? Est-ce que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est vraiment le seul moyen d'être sauvé pour tous les hommes sur la terre? OK? Donc, est-ce que l'œuvre de Christ est nécessaire ou est-ce que Dieu aurait donné Jésus-Christ pour le salut des chrétiens? Puis peut-être qu'il y a un autre Dieu qui peut servir au salut d'autres personnes. Et puis la troisième question, c'est est-ce qu'une foi consciente en Christ est nécessaire? Alors là, l'idée, c'est qu'il y en a qui vont dire, bien, tous les hommes qui sont sauvés le sont par la vertu de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais si j'ai quelqu'un qui est une personne de bonne volonté, qui n'entend jamais parler de Jésus, est-ce que l'œuvre de Christ, la vertu du pardon qu'il a acquis, pourrait être imputée à cette personne-là parce que ce n'est pas de sa faute, elle n'a jamais entendu parler de Jésus? Et donc, elle serait sauvée par l'œuvre de Jésus-Christ sans jamais avoir entendu parler de lui, par exemple. Et je vous dis, il y a beaucoup de théologiens qui vont défendre cette position-là maintenant, dans la théologie libérale, d'accord? Donc, ce qu'ils vont dire, c'est que l'œuvre de Christ est suffisante pour le salut de tous les hommes, pour ceux qui entendent son nom et croient en lui, et pour les hommes et les femmes, évidemment, de bonne volonté, qui n'entendront peut-être pas son nom, mais qui seront sauvés en vertu de son œuvre quand même, parce que c'est la grâce pour le salut de tous les hommes, d'accord? C'est pas l'universalisme, là. Je ne sais pas si vous voyez la distinction. Fait qu'on va regarder ça ensemble, ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans la mission? Mais c'est parce que on est en train de parler du contenu. C'est quoi mon message lorsque je m'en vais en mission? C'est quoi le message que Jean-Pierre et Abby sont allés apporter dans une terre séculière comme l'Europe francophone? Où l'idée de dire que Jésus est le seul chemin de salut, c'est comme, voyons donc, t'arrives d'où, toi? Ils t'ont sorti d'une caverne, bonhomme, ils t'ont dégelé, puis t'arrives de 1910. Fait que... Tu sais, c'est quoi le message? Quel est le message qu'on apporte? Mais ça a aussi un impact sur la motivation pour la mission. Si je suis convaincu que le salut de tous les hommes passe uniquement par la foi consciente en Jésus-Christ pour être sauvé d'une damnation éternelle consciente, hey, on a de la job à faire, les amis, là. Ce livre-là, là, c'est pas un luxe, là. Il faut vraiment se mettre à genoux, prier pour que Dieu donne des missionnaires, envoie des missionnaires, sauve des âmes, ouvre la porte dans les pays qui sont fermés complètement à l'Évangile. Parce qu'il en va du salut de toutes ces âmes-là. D'accord? Alors, on avance avec la question 1. L'enfer, lieu de tourment conscient et éternel. Je vais vous lire beaucoup de passages. Je vais en commenter quelques-uns. Des fois, je vais présenter les arguments de l'autre côté, d'accord? Daniel 12, 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Donc, par exemple, John Stott, qui est un prédicateur très respecté, si ce n'était pas de cette question-là, et c'est vraiment un homme extraordinaire sur tous ses enseignements, puis vous allez peut-être des fois m'entendre citer John Stott. Mais sur la question d'une souffrance éternelle des damnés, lui croyait dans l'annihilation de l'âme. Donc, lorsque lui arrive dans un passage où il va être parlé, admettons, de souffrance, de feu, sa compréhension, c'est, mais quand Dieu dit éternel, il veut dire jusqu'à temps que les damnés soient consumés. Quand ils vont te consumer, le feu va s'éteindre, ça va s'arrêter là. D'accord? Et un des éléments, c'est que lorsque je vais dans l'Ancien Testament, par exemple dans Daniel ici, le mot « éternel » qui est ici, c'est le mot hébreu « olam ». Et dans certains passages, il n'y a pas la notion de « infini ». Ça peut vouloir dire « infini » comme ça peut vouloir dire « très longtemps ». D'accord? Le hic, c'est que si je prends ça, ben la vie éternelle, puis l'opprobre éternel ou la honte éternelle, c'est le même mot « olam » que j'ai pour les deux. Donc, si la honte et l'opprobre est pour longtemps, mais éventuellement s'arrête, la vie éternelle est probablement pour longtemps et éventuellement s'arrête. D'accord? Donc, la vie éternelle ne serait pas plus éternelle que l'opprobre et la honte le seraient. Donc, la question qu'on est en train d'adresser, c'est ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont offensé Dieu, ceux qui ne se sont pas réfugiés en Jésus-Christ, est-ce qu'ils vont souffrir éternellement, consciemment éternellement? C'est la question qu'on est en train d'adresser. C'est une question super importante puis super dure, là. On a tous des gens qu'on aime énormément puis pour qui on n'a aucune assurance personnelle qui sont sauvés. D'accord? On en a tous. Matthieu 3, 12. « Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu, dans un feu qui ne s'éteint point. » Alors Jésus annonce qu'au retour, le Fils de l'homme va juger les hommes, et puis il va jeter la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et donc, dans le Nouveau Testament, le langage qui revient souvent, c'est cette idée-là d'une flamme, qui décrit de la souffrance, évidemment, qui ne s'éteint jamais. D'accord? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux dans la vie, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'entrer dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Comme je vous dis, quelqu'un comme John Stott, par exemple, son argument, c'est qu'il s'éteint point tant qu'il n'a pas fini de brûler. Mais un feu qui a fini de brûler ce qu'il avait à brûler va s'éteindre. D'accord? Le problème avec ça, c'est que j'importe quelque chose dans le texte. Quand je lis ce texte-là, le feu, il ne s'éteint jamais. Là. Puis les vers, excusez, là, va être dégueulasse. Les vers, ils bouffent tout le temps. D'accord? Comprenez c'est quoi les vers qu'il est en train de parler, là? C'est un corps en putréfaction, là. Ben, les vers, ils mangent tout le temps. Puis ils ne s'arrêteront jamais. Désolé, c'est assez cru. Mais fait que d'arriver à ce passage-là puis de dire oui, mais jusqu'à ce que on ait fini la combustion, puis elle va s'éteindre, j'importe quelque chose dans le texte. Si j'avais comme image un feu purificateur, il y a des places dans l'Ancien Testament où on voit cette image d'un feu purificateur. Même dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit que nos œuvres vont être passées par le feu pour être éprouvées. Mais ça, c'est un feu purificateur. Une fois qu'il a fini de purifier, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait se dire, bien, OK, ceux qui sont damnés vont être purifiés par le feu, puis après ça, ils vont aller. Là, ce serait la vision universaliste, d'accord? Donc, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils sont condamnés à une souffrance jusqu'à ce que le feu ait fini de les purifier, puis là, ils vont être sauvés. Toutes les évidences du Nouveau Testament ne vont pas dans ce sens-là. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis le jugement est définitif. Lazare, le mauvais riche, toutes les évidences vont dans un aspect absolument définitif, constant. D'accord? Leon Morris l'a dit comme ça, « Il n'est pas facile de voir dans le sort des méchants quoi que ce soit de moins définitif que dans celui des croyants. » Ce que je disais tantôt, donc si c'est temporaire pour les damner, peut-être que c'est temporaire pour les sauver. Le texte ne me permet pas de faire une distinction entre les deux. C'est un texte qui est radical, puis qui dit, vous avez deux options, mais les deux options sont éternelles. Il y a la vie éternelle, puis un feu qui ne s'éteint jamais. Je mentionnais la parabole justement avec Lazare, l'histoire avec Lazare et le mauvais riche, puis c'est une des seules histoires que Jésus raconte où il donne le prénom d'un personnage. Fait que quand on étudie les paraboles, vous savez c'est quoi? C'est lorsque Jésus donne des illustrations qui sont comme des leçons de choses, puis il prend quelque chose du quotidien des gens, il veut enseigner un principe à travers ça. Mais dans le cas de Lazare et le mauvais riche, il nous donne le nom de Lazare. Fait que tous les interprètes, tous les théologiens, les docteurs, lorsqu'on étudie le texte, on se dit « c'est-tu vraiment une parabole? » Parce que là, il nous donne un prénom où il est en train de nous raconter vraiment ce qui est arrivé à Lazare sans nous donner le nom du mauvais riche. C'est ma compréhension du passage, c'est pas vraiment une parabole. Mais dans ce cas-là, on voit justement le mauvais riche qui, rendu de l'autre côté, supplie Abraham, puis il dit « Écoute, n'importe quoi, donnez-moi juste une goutte d'eau, quelque chose. » Puis Abraham, il dit « C'est de ton vivant qu'il fallait que tu fasses tes choix. OK, mais envoie quelqu'un pour prêcher l'Évangile à mes frères. Maintenant, c'est leur temps de faire un choix. Même si je leur envoie les prophètes, n'importe qui, s'ils n'écoutent pas, ils n'écouteront jamais. » Et donc, c'est à eux de faire un choix. Puis il y a cette idée encore d'une permanence qui est là. Puis maintenant, l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 1, 9 et 10, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Et donc, il y a l'idée qu'ils vont être loin de sa face dans une ruine éternelle, loin de sa force. Il n'est pas question de destruction ici. Il est juste question d'être séparé éternellement. Jude 12, 13. « Ce sont des écueils dans vos agapes, dans vos repas ensemble, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. » C'est vraiment un beau langage, Jude. « Des vagues furieuses de la mort, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » Ça semble être encore une condition éternelle, d'accord? Et lorsque j'arrive dans l'Apocalypse, puis que je pense au jugement sur le diable, puis sur ses anges, qui l'ont, les anges déchus, bien je vois clairement que c'est le même jugement qui va être rendu à ceux qui vont voir rejeter Jésus-Christ. Alors, on lit dans Apocalypse 14, 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Et quand vous étudiez l'Apocalypse au siècle des siècles, ça veut dire « à jamais ». C'est ça que ça veut dire. D'accord? Je voulais une dernière citation, puis je vais prendre 2 minutes pour prendre des questions, parce que je sais que c'est un sujet qui est difficile. Mais on a encore beaucoup de matière à voir. Alors, au haut de la page suivante, quand Clark Pinnock, qui est, lui, penche plus vers l'universalisme, c'est l'idée comme que la souffrance des damnés sert à leur purification pour qu'après, je sais pas, 1000 ans, ils puissent être libérés puis être sauvés. Alors, quand Clark Pinnock et John Stott réitèrent l'objection que l'on entend depuis des siècles et selon laquelle un châtiment éternel est disproportionné par rapport à une vie de péché limité dans le temps. Écoutez bien ceci, c'est fondamental. C'est fondamental pour comprendre ce que représente le jugement, la condamnation en enfer. Ils méconnaissent l'aspect essentiel que Jonathan Edwards avait si bien compris. La culpabilité ne s'évalue pas en fonction de la durée pendant laquelle vous faites offense à la dignité, mais en fonction de la grandeur de la dignité à laquelle vous faites offense. Fait que nous, humainement, on va dire, Ben là, c'est parce que c'est long, longtemps, l'éternité, tu sais, c'est comme... Il semble qu'il... Même Hitler, peut-être, après 4 millions d'années, on pourrait donner une pause. Mais ça, c'est placer l'homme au centre de la question. Jamais les Écritures font ça. C'est Dieu qui est au centre de la question. Et le châtiment que les damnés vont recevoir est proportionnel à l'offense qui a été faite à Dieu, à sa gloire à lui. Puis ça, c'est comme inconcevable à l'homme charnel. L'homme qui ne connaît pas Dieu ramène tout à lui-même. D'accord? Parce que Dieu est bon, parce que Dieu nous a donné l'Éden, parce que Dieu nous a donné la terre, parce que Dieu nous a donné la vie, parce que Dieu nous a créé à son image avec toutes sortes de bontés. Mais l'homme déchu, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ça à lui-même. Puis il dit, « Ouais, mais là, tu es injuste avec moi. » Non, non, tu ne comprends pas. À la limite, il est injuste par le salut en sauvant quelques-uns. Cette injustice-là a été résolue dans l'Évangile de Jésus-Christ. Mais si Dieu n'était que juste, c'est l'enfer pour tout le monde, pour l'éternité. Parce que tu as eu un grand privilège, tu as été créé à l'image de Dieu pour participer à sa gloire. Puis tu as rejeté ça. Posez-vous la question pour le diable et les anges, c'est quoi leur planche de salut à eux? C'est qui est mort sur la croix pour Satan? Personne. Qui est mort sur la croix pour les démons? Personne. Jésus est mort sur la croix pour les hommes, c'est tout. Il n'y a aucune chance de salut pour le diable et les anges lorsqu'ils ont rejeté Dieu. Ils avaient choisi leur éternité. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Plus des questions que des commentaires. Mais ça va me faire plaisir de répondre à des questions. S'il y a comme quelque chose, vous dites, je ne comprends pas, je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne comprends pas. Où il y a quelque chose qui me semble ambigu, il n'y a pas peut-être d'autres passages qui vous viennent à l'esprit. On va vous digérer, hein? C'est ça. C'est bon, je sais que ce n'est pas facile à entendre. Mais honnêtement, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils mourir sur la croix s'il fallait juste qu'on souffre 3-4 000 ans avant d'être sauvé. Il n'y aurait pas eu ce drame-là au sein de la Sainte Trinité. Christ n'aurait pas été envoyé dans les enfers si ça avait été juste une question qu'on aille se purifier une couple de milliers d'années en enfer. Oui, Guillaume. Non. Peut-être que je me suis mal exprimé.
Oui. Et elle est la même pour tous.
Oui. Ah, ben, OK, j'ai pas adressé. OK, je pense que je comprends mieux ta question. Ce matin, j'ai pas adressé la question à savoir s'il y a différents niveaux de souffrance en enfer. J'ai pas adressé cette question-là. Non. Non, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on nous, on a tendance à penser humainement, là, puis vous comprenez, j'ai beaucoup de gens que j'aime qui sont pas chrétiens. Là, OK? Fait que je parle pas de ces choses-là avec légèreté. Ben, j'aurais tendance à me dire, regarde, Hitler, c'est bon. Tu sais, mais je pourrais te nommer quelques-uns de mes proches. Peut-être pas, là, tu sais, c'est comme disproportionné. Lorsqu'on a l'impression qu'un jugement, une condamnation éternelle est disproportionnée, c'est parce qu'on le ramène à l'être humain. Mais on oublie l'offense qui a été faite, la dignité, la gloire de la personne qui a été offensée. Et donc, je mesure mon offense à la mesure de Dieu, pas à la mesure de l'être humain. Et Dieu, c'est le bienfaiteur, c'est celui qui nous a tout donné, c'est celui qui nous a fait toute grâce, d'accord? Et parce qu'on est habitué à la patience de Dieu envers les hommes, parce qu'on Dieu détruit pas la terre. Quand les gens, là, j'ai encore quelqu'un qui m'a demandé dernièrement, a dit, « Il est où ton Dieu? Il est où là, ce Dieu-là là, qui est pas en train de... Regarde, il y a des enfants qui se font violer. Regarde là, ce qui s'est passé en Syrie. Là. Il est où ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce Dieu-là? » La vraie réponse, que je dis jamais au début, c'est, ben, il te laisse respirer encore une seconde pour que peut-être tu te convertisses puis t'évites l'enfer. Fait que le violeur, là, il a laissé encore une seconde pour respirer. Puis le monstre qui a tué du monde, il a laissé encore une seconde pour respirer. Puis si demain le soleil se lève, c'est parce que Dieu est patient. Parce que tous les péchés, il les voit tous, il les prend tous en note. Puis il est en train de monter une montagne de colère. Puis quand on va arriver au jugement dernier, c'est ça qui va se déverser sur tous ceux qui ne se sont pas mis à l'abri de la croix. Mais on est habitué à cette grâce-là quotidienne où Dieu fait lever le soleil sur les bons, sur les méchants, puis on se dit, ah, finalement, il en laisse passer pas mal. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça. Il n'en laisse pas passer une. Il n'en laisse pas passer une. Puis tous ceux qui ne vont pas se mettre à l'abri de la croix vont payer pour éternellement. Oui. Oui.
Puis à ce moment-là, ceux qui sont sauvés sont tout de suite avec lui et glorifiés. Mais quand on parle du corps qui va ressusciter, tout ça, quand Jésus revient,
ma compréhension, c'est qu'on n'a pas un corps glorifié à la mort. On est placé dans un endroit d'attente, puis le corps glorifié, ça va être avec la résurrection de tous. Ça, c'est ma compréhension. Fait que, mais c'est quelque chose qui n'est pas super facile à répondre, à trancher au couteau dans les Écritures. Mais il semble plutôt qu'on est placé dans un endroit d'attente où on est dans la présence de Dieu, mais nos corps glorifiés, on va les recevoir à la résurrection, au moment où tous vont ressusciter ensemble. Ça, c'est ma compréhension. Oui, Guillaume.
Oui, mais j'ai Paul en tête. Saul de Tarse a fait du mal à l'Église.
Oui.
Il a lapidé des gens.
Oui.
Tu sais, tu parles d'Hitler.
Oui. Ah, il a mis à mort. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est un meurtrier.
C'est un meurtrier.
Oui. Oui.
Dieu l'a utilisé pour sa gloire.
Oui. Alors, celui qui croit en Christ, je veux dire, Hitler aurait pu. Bon, on pense qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé, je ne sais pas, là, mais avant de se suicider, il aurait pu se convertir. Tu sais, fait que, je veux dire, Hitler, il est où? Moi, je sais. Il est peut-être au ciel. C'est peut-être comme la plus mauvaise illustration qu'on a utilisée depuis des dizaines d'années parce qu'il est au ciel, puis il s'est converti, puis quelqu'un l'a flingué après que ce soit... Tu comprends? Je ne sais pas, moi, ce que c'est passé. N'importe qui peut être sauvé à la condition de se mettre à l'abri de Christ. Mais autrement, de l'autre côté, il n'y en a pas d'autre. Ça va? On passe à la deuxième question, puis je pense qu'on va terminer la semaine prochaine. Mais c'est un sujet important, puis c'est un sujet délicat, fait que c'est correct de prendre un petit peu de temps. Là. On va rentrer dans notre temps quand même. Deuxième question, l'expiation de Christ est-elle nécessaire pour être sauvé? Donc là, la question est évidemment difficile encore. Puis quand je dis que c'est des questions difficiles, là, comment je vous dirais ça? On a l'impression que c'est des questions difficiles parce qu'à notre époque, ce sont des questions difficiles. Mais l'Évangile se... est répandu sur la terre plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Là. Fait que ces questions-là qu'on soulève ici puis qui vous sont présentées, pensez pas que c'est seulement parce que vous êtes en Occident puis que la moitié du monde sont athées, ce qui est même pas vrai. Là. Mais c'est pas vrai. Là. C'est des questions qui sont posées depuis toujours aux chrétiens. D'accord? Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ est absolument nécessaire pour être sauvé ou est-ce qu'il pourrait y avoir une autre voie de salut? Est-ce qu'il y aurait un autre moyen d'être sauvé pour les gens qui n'entendent pas parler de Jésus ou pour les gens qui croient dans d'autres religions, d'accord? Il semble que les Écritures soient claires sur la question, Romains 5, 17 à 19. Si par l'offense, écoutez bien l'argument de Paul, là, c'est central à cette question-là. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc il fait référence à Adam, Adam pêche, dans ce cas-là, il ne prend même pas Ève, d'accord? Parce que Adam, c'était... comme le chef, le premier homme créé, et c'est par son offense à lui que ça rentre dans l'humanité. Mais prenez Adam et Ève lorsqu'on parle d'un seul. Donc, par leur faute, on hérite tous d'une nature pécheresse. Avant de commettre mon péché, je suis déjà damné. Avant de commettre mon premier péché, je suis déjà jugé. D'accord? Parce que j'ai hérité de la nature pécheresse. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et donc, tout l'argument de Paul, c'est que par un seul homme, tous les hommes sont damnés, par un seul homme, le salut est rendu possible. Il y a un seul sacrifice, un seul moyen qui est donné, et qui rend possible le salut de tous les hommes sur la terre. Maintenant, on connaît la théologie de Paul. Paul n'est pas universaliste. Il n'est pas en train de dire que de facto tout le monde est sauvé. C'est ceux qui placent leur foi en Christ. Mais par l'œuvre d'un seul. D'accord? Et donc, le Nouveau Testament va insister constamment sur l'idée un seul. Un seul. Et puis, tu es à une époque où il y a plein de religions qui sont autour. D'accord? Est-ce que Paul doit vraiment aller annoncer l'Évangile aux gens qui croient dans d'autres choses? Ou est-ce que ça se peut qu'ils soient sauvés déjà par leur foi dans leur religion? Ou est-ce qu'il y a un seul nom qui a été donné aux hommes? 1 Corinthiens 15, 21-23 « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Donc, ce n'est pas tous les hommes, c'est ceux qui appartiennent à Christ. D'accord? On connaît encore une fois la théologie de Paul. Dans ce texte, la résurrection du Christ est la réponse à la malédiction universelle de l'homme que constitue la mort. Quand vous regardez la Terre en général, puis vous lisez les journaux, puis vous regardez comment les nations se comportent, on va tous être d'accord assez rapidement pour dire que tous les êtres humains sont pécheurs. D'accord? Tu regardes comment ça va sur la terre, tu dis, c'est pas juste ceux qui étaient appelés à être chrétiens qui sont pécheurs, c'est tout le monde est pécheur. C'est la malédiction que Dieu a prononcée sur l'humanité. Par la chute d'Adam et Ève, le péché s'est répandu à tous les êtres humains qui allaient venir. On l'hérite, ça coule dans nos veines, c'est dans notre sang. On est pécheur, on vient au monde pécheur, carrément. Et ce que Paul dit ici, c'est qu'il y a un remède pour enlever la malédiction sur tous les hommes. Tous ceux qui vont se placer à l'abri de la croix de Jésus-Christ. Il y a un seul remède pour cette malédiction-là, c'est Jésus-Christ. Ainsi, nulle part dans la Bible, nous trouvons l'idée ou l'ouverture à la possibilité qu'il y ait un salut ailleurs qu'en Jésus-Christ. Je termine avec le passage tiré de l'Apocalypse, qui dit exactement l'opposé de ça, c'est-à-dire qui dit que le salut se trouve juste en lui, même pour toutes les nations de la terre. Apocalypse 5, 9 et 10, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. » Et donc, il y a cette idée très, très... du Nouveau Testament, qu'on doit aller vers toutes les nations parce que Dieu a élu, Dieu appelle des gens de toutes les nations, de la terre, de toute langue, de toute tribu. Puis lorsqu'on va arriver au ciel, on ne va pas tous parler la même langue nécessairement. On va être là avec toutes nos cultures différentes, puis ça va célébrer la gloire de Dieu. Dieu va être glorifié par ça. Mais donc, ça veut dire qu'on va annoncer Jésus à tous ces gens qui ont déjà leur religion, qui sont déjà bien dans leur religion. Détrompez-vous si vous vous dites « Oui, mais c'est parce qu'ils ont des pratiques qui n'ont tellement pas d'allure. » Pis... Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pourrais vous présenter des musulmans qui, écoutez, sont tellement plus corrects que vous et moi. Je pourrais vous présenter des bouddhistes qui sont des gens d'une piété puis d'une ferveur incroyable, avec une éthique de vie. Je pourrais vous présenter des athées. Il y en a un que je suis sur Internet, c'est un gentleman incroyable, Sam Harris. Il haït la religion, il haït le concept de Dieu, il méprise l'idée de Dieu. Mais quand il parle avec les gens, là, respectueux, gentil, quand ses followers, ses fans s'en vont parler en mal à des gens, il dit « Faites pas ça, vous coupez tout le dialogue, on veut discuter ensemble ». Donc, je pourrais vous présenter des gens de toutes sortes de fois, puis vous en connaissez probablement, qui nous feraient la barbe n'importe quand dans leur manière de vivre. Est-ce que ça va les sauver? Ou est-ce qu'il y a un seul moyen d'être sauvé? Est-ce que par leur bonne vie, ils vont tasser, ils vont éliminer la malédiction de Dieu qui repose sur eux, le jugement qui les attend? Est-ce qu'on peut y arriver par nos œuvres, nos bonnes œuvres, par quelques mérites que ce soit, en pratiquant le bouddhisme, en étant musulman, en étant brahmaniste, n'importe quoi? D'accord? Non, il y a un seul nom qui est donné, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Puis je vais couvrir la troisième question la semaine prochaine. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Maintenant, ça se peut que dans votre fer intérieur, vous dites, je ne suis pas prêt à endosser ça, Yannick. Puis, tu sais, ça serait comme malaisant de dire, ben, c'est pas une question, je veux juste dire, je suis pas d'accord avec l'Église. Fait que, je comprends. Maintenant, si c'est ça, c'est vraiment important que vous étudiez les Écritures. D'accord? Si vous avez un malaise avec les choses qu'on a affirmées ici, c'est vraiment important que vous puissiez avoir une conviction fondée sur les Écritures. Il en va du salut des gens autour de vous. Peut-être qu'il en va de votre salut à vous. D'accord? Parce que si vous annoncez un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, l'apôtre Paul est super dur. Hein, dans Galates, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il soit maudit, même si un ange de Dieu venait m'annoncer un autre évangile, une autre bonne nouvelle que Jésus-Christ, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit damné. Il dit, même si moi je vous revenais avec un nouveau message, hey, j'ai compris d'autres choses, que je sois maudit. D'accord? Alors, si dans votre cœur, vous êtes troublé par les choses qu'on a dit ce matin, si vous dites, c'est too much, moi, je ne peux pas adhérer à ça. Non, c'est trop. Je ne suis pas bien avec ça, puis ce n'est pas ma conviction, puis je ne crois pas que Dieu est comme ça. C'est possible que vous soyez là. Hein? Quand je dis ça, là, je suis très sincère, c'est possible que vous soyez là. Je pourrais vous présenter plein de gens qui sont là. Je pourrais vous présenter des gens qui se disent chrétiens, puis qui sont là. C'est vraiment important que vous alliez étudier les Écritures à ce moment-là, pour vous forger une conviction. Puis si votre conviction, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes en désaccord avec ce qu'on affirme ici, venez voir un des pasteurs. On va prendre le temps de s'asseoir avec vous. On va étudier les Écritures, d'accord? Parce que les Écritures sont claires sur la question. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière. Bien, Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, ce matin, on parle d'un sujet qui est lourd parce que ça nous rappelle le jugement qui attend tous ceux qui ne placeront pas leur foi en Jésus-Christ. Mais Seigneur, on étudie cette question-là dans le contexte de la mission, parce que nous vivons en l'an de grâce 2017. 2017 ans après la venue de Jésus-Christ dans ce monde, qui est venu offrir le salut aux hommes, offrir aux hommes de les épargner du jugement éternel, offrir aux hommes une voie de salut, Seigneur. Alors, Père, ce matin, on veut te prier pour nous, premièrement, pour nos cœurs. Viens affermir notre foi en Jésus-Christ. Viens élever la beauté, la gloire de l'œuvre de Christ à la croix, Seigneur. Et on veut te prier, Père, pour les missionnaires qui sont envoyés de par le monde, partout dans le monde, dans des pays où ils sont obligés de cacher leur identité pour ne pas être arrêtés, persécutés, peut-être mis à mort. Pour les chrétiens qui sont dans ces peuples, ces peuplades, ces nations, ces tribus, où ils sont un, deux, trois chrétiens parmi des milliers de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et ils doivent trouver en eux-mêmes le courage d'ouvrir la bouche en sachant qu'ils pourraient être maltraités, Seigneur. En sachant qu'ils pourraient perdre la vie, en sachant qu'ils pourraient être déshérités, en sachant qu'ils ne pourront peut-être jamais vivre confortablement parce qu'ils ont annoncé Jésus-Christ. Viens les fortifier, Seigneur. Suscite de cette Église, de tes Églises, Seigneur, des missionnaires qui vont partir. Suscite de cette Église, des autres assemblées, Seigneur, une grande générosité pour donner pour la mission. Les besoins sont énormes, Seigneur. Es-tu patiente? Es-tu fait grâce? Ce matin, le soleil s'est levé. Aujourd'hui, probablement que des milliers de personnes sur la terre vont se convertir à Jésus-Christ. Par ta grâce, demain, le soleil va se lever. Encore une fois, des milliers de personnes vont se convertir à Jésus-Christ. Peut-être quelques-uns de nos proches pour qui on prie ardemment, Seigneur. Seigneur, continue à nous faire grandir. Continue à patienter, Seigneur. Sauve encore aujourd'hui. Sauve chez nos proches. Sauve jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Sauve des âmes de ce jugement éternel qui les attend. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.